réside Radio Présence. Tout de suite, c'est l'actualité du cinéma avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Je rassure tout le monde, tous les chroniqueurs sont là, aucun n'est en prison.
Pas de relax. Une relax justement, mais pas de relax.
Bon.
Ouais, c'est pour coller à l'actualité. Bah, bien exactement. Montré qu'on est en direct, quand même. C'est pas enregistré il y a 6 mois. Bah, oui.
On a bien compris votre souci, Laurent Martin, de véracité.
Exactement.
Laurent, qui est venu, comme à l'accoutumée, à pied depuis le cinéma.
À pied, tout à fait, par ce temps printanier.
C'est assez surprenant.
Bizarre, hein.
Effectivement, c'est assez surprenant. Il faut quand même avoir un parapluie à oui. portée de main, parce que de temps en temps, quelques gouttes tombent. Dites-nous, Laurent, vous allez nous conseiller des films à voir à la télé ce soir, combien ?
Oui, j'ai sélectionné 5 films pour passer une bonne soirée de cinéma à la télévision. Et ce soir, il n'y aura pas de conseil Blu-ray ni de conseil de lecture.
Pas de cadeau, donc ?
Un conseil musical, si vous avez un cadeau. Et oui,
même.
Le cinéma, c'est aussi de la musique.
Et oui.
Et des expositions aussi, de temps en temps.
Exactement. De temps en temps aussi. Mais vous l'avez entendu, il est disserte ce soir. Il est disserte, il faut dire.
On sera privé de disserte.
Vous avez 4 heures pour composer sur le rôle de l'image.
Mais, oh là 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 là. Mais dites-moi, Guillaume Sidom. Il est enivré par l'accueil que lui font ses admiratrices chaque fois. C'est pour ça que de plus en plus maintenant, il est rayonnant, il est joyeux, jovial aussi. Vous allez, fidèle à votre réputation de mécano du cinéma, avec votre retour de manivelle, dont il faut faire attention malgré tout, nous parler d'une pièce maîtresse du 7e art. Un joyeux, dirons-nous. Peut-être, je ne sais pas, mais faites-nous rêver.
Un chef-d'œuvre, une brillante réflexion sur ce que nous voyons ou devrions-nous voir. 15 ans plus tard, le maestro Brian De Palma en donnera une remarquable variation.
Ah, ça nous met sur la voie. Comme nous allons aussi suivre notre homme de loi des séries dans son tribunal des séries, Grégory Com, eh bien, a barré le mot série ce soir, ça lui arrive de temps en temps, et va se pencher sur Kaamelott, mais pas la série, donc je vous le disais, mais le deuxième volet, partie 1, qui est à l'affiche depuis aujourd'hui dans tous les cinémas en France, et forcément un à proximité de chez vous. Et il me semble que là, il a revêtu sa robe de procureur. Ça va saigner. On aime quand il est comme ça, irrité, notre homme de loi des séries. C'est pour tout à l'heure. Après tout ça, ou avant tout ça plutôt, nous retrouverons Laurent Martin. Cher Laurent, qui allait scruter l'affiche de la semaine avec l'ouvreuse, évidemment. Il y aura des reprises sur le grand écran, sur le petit on en a déjà parlé, sur le grand aussi. Nous en dirons quelques mots, et puis bien sûr, en fin d'émission, des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des lieux où on a envie que vous alliez de notre part. Voilà, tout est dit sur ce qui vous attend pour cette heure. Bon début de soirée avec nous et l'ouvreuse. Eh bien, comme d'habitude, nous allons commencer par la projection d'un film. Installez-vous confortablement et ne manquez pas de lire les sous-titres. Vous allez en avoir besoin.
What are you doing? Stop it! Stop it! Give me those pictures. You can't photograph people like that.
Who says I can't? I'm only doing my job. Some people are old fighters. Some people are politicians. I'm a photographer.
This is a public place. Everyone has the right to be left in peace.
It's not my fault if there's no peace. You know, most girls would pay me to photograph them.
I'll pay you.
I have a charge. There are other things I want on the reel.
Oula, une prise de bec entre une jeune femme et un jeune homme dans un parc londonien. Ce jeune homme est photographe, il a pris des photos, mais la jeune femme ne veut pas qu'il la prenne en photo. Mais pourquoi donc et à quelle occasion se dispute-t-il, Guillaume Sidom ?
Ah oui, ces fameuses photos énigmatiques pour Blow Up, un film de Michelangelo Antonioni sorti en 1966 d'après une nouvelle de l'écrivain argentin Julio Cortázar, Palme d'Or en 1967 à Cannes, je vais y revenir, avec David Hemmings, Vanessa Redgrave que vous avez entendu, Sarah Miles, Peter Bowles et la toute jeune Jane Birkin d'alors. C'est donc le film du Londres des 60s et c'est l'œuvre d'un cinéaste italien, auteur de L'Aventura, film devenu culte, miroir désenchanté, tendu à son époque, une plongée dans le monde des photographes de mode, un récit policier aussi sans résolution, réflexion brillante sur l'art et la réalité. Et ne boudons pas notre plaisir ce soir, la musique d'Herbie Hancock est elle aussi remarquable, vous l'entendrez à la fin de ma chronique. Film fondateur et matrice de toute une série de questions que nous avons sur le sens des images au cinéma. Qu'est-ce que la réalité et comment la percevons-nous ? Sommes-nous victimes de vision ? La traduction en français du titre est un terme technique de photographie, agrandissement, il renvoie donc directement à l'intrigue, construit comme une minutieuse enquête. Blow Up est une invitation, écarquiller les yeux comme David Hemmings et regardez, zoomez, vous verrez l'arme et le cadavre, agrandissez encore, il ne vous reste que du grain, un flou incertain, le chaos contrôlé, recherché par un peintre qui pratique lui l'abstraction. Blow Up ne soutient pas la thèse paresseuse que nulle réalité n'existe, mais celle plus subtile que cette réalité peut s'avérer bien épuisante à saisir, qu'à trop en chercher finalement le contour d'analyse au détriment d'une proposition vraie dans sa globalité, peut se perdre donc le sens de ce que pourquoi nous regardons en premier lieu, que cet effort de précision n'est pas toujours valorisé. L'important n'est pas ici de comprendre, mais d'accepter ce jeu de dupes. Dans Blow Up, il y a donc un photographe de mode, vous l'avez dit, hein, Louis-Marie, Thomas, magistralement interprété par David Hemmings. Son Nixon, ses boots, sa chemise à petits carreaux, il lui prépare donc un reportage photo sur Londres. Et pour compléter son éventail de clichés, il prend ensuite discrètement en photo un couple d'amoureux dans un parc et à sa grande surprise, eh bien la femme va se précipiter vers lui pour lui arracher son appareil et il le poursuit jusqu'à son domicile et même s'offre à lui dans l'espoir de récupérer les négatifs. Intrigué, il lui remet une autre pellicule. Une fois le précieux film développé, il va découvrir sur les agrandissements un corps inerte caché derrière un buisson et une main tenant un revolver.
24 heures donc de la vie d'un photographe londonien qui entrevoit un meurtre et mène donc une enquête.
Oui, plus précisément une quête de la vérité dans un monde où tout n'est plus qu'apparence, illusion du réel. Et dans ce décor, Antonioni tourne un film d'une grande rigueur esthétique, le tout au service d'un propos vertigineux et même métaphysique. Le sentiment poignant de l'effacement du réel qu'a vu réellement Thomas et que prouvent ses photos. Rien peut-être de quoi vous faire flipper, car Thomas a bien vu quelque chose, mais paradoxalement, et c'est là le comble du photographe, un homme chargé de coucher la réalité de ce qu'il voit sur pellicule, il a vu et au final il n'a rien vu du tout. Victime de l'illusion artistique, mais aussi de son propre ego, il est cloué par une vérité inhérente à sa profession et ne peut se relever d'avoir été aussi facilement berné, tout comme le spectateur médusé à la fin. L'énigme du meurtre présumé dans le parc fait évidemment écho à certains classiques du cinéma comme Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, tout en étant prétexte à une réflexion sur le regard de l'artiste et les effets en trompe-l'œil de la réalité. Antonioni ne pose pas l'absence de sens comme une évidence, mais met en scène ici un dispositif où un seul regard ne peut suffire à prouver quoi que ce soit. C'est en confrontant les différents regards mis en jeu dans le récit que le spectateur peut lire la réalité qui ne se dérobe pas, mais ne s'offre pas non plus immédiatement et sans déchiffrement. Et le thème de l'incommunicabilité est cher au cinéaste. Eh bien, nous le trouvons tout autant dans les rapports difficiles entre Thomas et sa maîtresse Patricia que dans les relations professionnelles et commerciales faites de compromis, d'incompréhension, comme le révèlent les scènes avec son éditeur l'antiquaire ou les jeunes modèles qui l'humilient, une orgie en échange d'un shooting.
Une cohorte de réalisateurs prestigieux, Guillaume a rendu hommage à ce masterpiece, si on peut l'appeler ainsi, sur l'illusion du réel.
De Brian De Palma, Blowout, où il n'est pas question de photographie dans ce remake, mais de prise de son, à Dario Argento, Les frissons de l'angoisse, qui partagent d'ailleurs le même acteur principal David Hemmings avec Blow Up, en passant par David Lynch ou encore Conversation secrète, Francis Ford Coppola, des cinéastes pour qui l'atmosphère et l'impact visuel sont plus importants que la caractérisation des personnages ou des dialogues. Il n'y a pas de hasard et ce film est ainsi devenu une sorte de document. Il va recevoir au Festival de Cannes 1967 la Palme d'Or méritée. qui a échappé à l'Aventura 7 ans plus tôt. Et David Hemmings n'a jamais été meilleur qu'ici. À retrouver ce dimanche 26 octobre, 16h, à l'auditorium du Musée des Abattoirs à Toulouse, dans le cadre du cycle Remake proposé par la Cinémathèque de Toulouse, visible jusqu'au 23 novembre prochain. Notez que l'excellent remake de Brian De Palma, Blood, avec le son à la place de l'image, donc sera lui projeté samedi 22 novembre prochain à 18h, toujours aux abattoirs. Retrouvez toute la programmation sur lacinémathèquedetoulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Sony Pictures. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Nous avons un petit problème technique. Nous voilà bien embarrassés, messieurs, mesdemoiselles aussi, et mesdames. On n'a plus du tout de son qui veut sortir. ça va être très ennuyeux. On va essayer de trouver quelque chose à vous faire écouter, parce que là, pour le moment, c'est critique.
D'Herbie Hancock, peut-être.
Vous
l'avez pas vu. Il n'y a plus de son.
Il n'y a plus de son.
C'est pas que je veux pas passer Herbie Hancock, c'est que l'appareil ne veut pas passer Herbie Hancock.
Juste une anecdote pour compléter le film. Oui. Il me semble que c'était le premier film où on voyait des personnages complètement nus, des femmes complètement nues. Et ça fait scandale à l'époque en Grande-Bretagne.
Et on était en 1966.
66,
oui, exactement. On va se mettre à chanter s'il faut.
L'Angleterre a gagné la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, oui, on peut bifurquer sur le football si vous voulez. Est-ce qu'on redémarre l'ordinateur, voilà. C'est du direct, c'est les aléas du direct. Sinon je peux faire ma chronique, hein. Pas de soucis, pas de son.
Pourquoi pas.
Je me lance, ouais. Allez, c'est parti. L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec l'homme qui rétrécit. Je savais que le linge rétrécissait, mais qu'un homme pouvait rétrécir.
Ça m'arrive.
Ça m'est déjà arrivé, ça. J'en doute pas. L'homme qui rétrécit, nouveau film de Yann Kounen. Yann Kounen que j'avais détesté parce qu'il avait massacré un film sur Blueberry, vous savez, le fameux cowboy dont je suis fan. Donc je lui en veux un peu, mais là, ça va, il est revenu dans mon estime. Donc un film de Yann Kounen avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croz. Alors L'homme qui rétrécit, c'est la nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson qui nous entraîne dans le sillage de Paul, un homme ordinaire, comme vous, Louis-Marie et Guillaume aussi. Hein. Un homme ordinaire qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Élise, qui lui écrit des lettres sûrement, et leur fille Mia, qui danse, elle, le Mia, lors d'une sortie en mer, tout ça c'est improvisé, hein. Lors d'une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué, comme nous avec le réchauffement climatique en quelque sorte, et dès lors Paul rétrécit inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi, et ni lui être d'aucun secours, comme lors du Covid.
Juste une précision, je crois que Jean Dujardin, je mesurais 1m36 dans Un homme à la hauteur, le film précédent.
D'accord, oui, merci pour cette...
Donc il a peut-être encore rétréci.
Il a encore rétréci, oui. Et là, ça se fait par un coup. Hein. Et donc, par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave, et alors qu'il ne mesure plus que quelques centimètres, tel un schtroumpf, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu périlleux. Et là, ça va être une espèce de Robinson Crusoe des caves. Et lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui-même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l'existence. L'homme qui rétrécit est tout à la fois un récit initiatique et un grand film d'aventure. Et ce qui nous dit aussi que quand vous avez une araignée dans la cave, il vaut mieux la tuer, parce que si vous rétrécissez, après l'araignée risque de vous attaquer quand vous êtes petit. Mais oui, il faut penser à tout dans la vie. Donc on pourrait bien sûr s'arrêter sur le défi technologique. Les plans de motion control, les décors géants retravaillés, ces matières réinventées pour qu'une goutte d'eau ou une allumette retrouve une échelle crédible. L'homme qui rétrécit, version Kounen du jardin, aurait pu n'être qu'un numéro de haute voltige visuelle, mais derrière la révolution se cache un film poétique et spirituel, une tentative étrange et bouleversante de raconter comment un homme se retranche du monde pour mieux accepter sa disparition. Kounen prend le parti radical de ne jamais quitter le point de vue du héros et tire le récit aussi vers son cinéma illuminé, ultra sensoriel, avec des plans longs et ouatés, des silences habités, des gestes amplifiés. Tout devient une traversée plus intime. Un escalier, une allumette ou une simple fuite d'eau suffisent à mesurer la faiblesse et la fragilité de l'homme. Face à ce dispositif, Dujardin livre une de ses plus grandes performances récentes, presque muet, presque seul en scène. Il joue avec son souffle, sa fatigue, ses tremblements. Voilà, il transforme la survie en prouesse physique et en mélo existentiel. Mari, père, homme ordinaire, il apprend à se détacher. Il y a presque du Buster Keaton même dans ce personnage qui court vers sa perte et sa renaissance, tout en restant fidèle à l'esprit du classique. Ce remake donc passe de la fable à la méditation. Tout s'y condense, je l'ai dit, et donc la beauté mélancolique, l'acceptation de son sort et la réflexion aussi sur la mort. Derrière l'exploit technique se révèle alors un grand film qui rappelle qu'accepter la fin, c'est encore une façon de vivre et de vivre jusqu'au bout. Petite revue de presse sur ce film. L'homme qui rétrécit est bourré d'effets spéciaux à couper le souffle. Une vraie pépite, selon Public. La Voix du Nord a bien aimé aussi. Une fable troublante et émouvante. Le Figaro est positif aussi. Jean Coulin revisite avec audace et sensibilité le classique de Jack Arnold, sorti en 1957. Oui, c'est vrai qu'on peut voir aussi l'original de Jack Arnold en 57, où bien sûr les effets visuels étaient tout à fait différents. Critique négative pour les fiches du cinéma. Une triste adaptation de la nouvelle de Matheson. Télérama n'a pas aimé non plus. Un remake efficace, mais sans originalité.
Alors je vous propose, oui, cher Laurent, de retrouver le panier de l'ouvreuse après avoir écouté Herbie Hancock, puisque nos malheurs sonores ont pris fin.
Vous avez sorti la boîte à outils.
À outils, il a fallu donner 2-3 coups de pied où il fallait. Et
on est toujours à la technologie des fois.
Oui, de temps en temps. Parce qu'on ne vous avait pas dit qu'en plus, dans le panier de l'ouvreuse, nous allons avoir une invitée au téléphone, Virginie Sansot, la directrice du cinéma CGR Cartoucherie, eh oui, il vient d'ouvrir, c'était le 12 octobre dernier, ce cinéma qui se trouve dans ce nouveau quartier de la Cartoucherie où il y a les Halles, où bon nombre de Toulousains se retrouvent pour manger et boire et passer de très belles soirées. En attendant de vous retrouver, Laurent, pardon et merci, l'ouvreuse.
Il faut savoir improviser.
Voilà. Est enchanté que vous soyez à ses côtés. Et on retrouve tout de suite Herbie Hancock. Je ne résiste pas à l'envie de vous donner le titre de ce morceau d'Herbie Hancock qu'il a signé pour le film de Michelangelo Antonioni, Blow Up. Ce titre, c'est Verushka, Part 1. Je disais à la tentation, à l'envie plutôt. Hein. C'est un peu exagéré, la tentation. Et sans transition aucune, mais quel plaisir aussi, nous allons retrouver tout de suite Virginie Sansot, la directrice du cinéma CGR Cartoucherie, qui est ouvert depuis peu à la Cartoucherie, donc ce nouveau quartier toulousain, depuis le 12 octobre. Bonsoir Virginie.
Bonsoir. Je me permets juste un petit rectificatif, c'est le cinéma VO.
Ah oui, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai raconté comme ânerie?
Vous avez dit sévère.
Ah oui.
Et on est ouvert depuis le 11 octobre.
Mais alors, c'est inexcusable ce que je viens de faire. Inexcusable, le VO, je serai puni et porté en place publique pour me repentir de cette erreur grossière. Le VO cartoucherie, donc vous êtes la directrice. Alors le VO, je le disais en présentation, est ouvert depuis le 12 octobre dans le centre de ce quartier que les Toulousains maintenant connaissent bien, ceux du quartier bien sûr, mais aussi les autres qui viennent pour passer de belles soirées et puis pratiquer différentes activités dans les halles de la cartoucherie. Comment s'est passée votre installation, Virginie Sansot?
Écoutez, c'est une installation qui s'est faite de façon relativement facile en termes d'accueil du public, puisque ce cinéma était très attendu. Nous avions beaucoup de passants curieux qui regardaient derrière les grilles. Et une fois les grilles de chantier enlevées, on a vu beaucoup de petites têtes accourir derrière les vitres. Et on a senti tout de suite qu'on était les bienvenus. Et même plus que ça, il y avait une certaine impatience par rapport à ce nouveau lieu, ce nouvel outil culturel, qui est venu compléter toute l'offre des Halles de la Cartoucherie. Les Halles ont ouvert il y a 2 ans maintenant, puis est venu se greffer l'ouverture de la cabane 1 an plus tard, la salle de concert. Et tout naturellement, au bout de 2 ans, le cinéma est arrivé. Donc, en 2 ans, il y a une offre culturelle assez complète dans ce quartier qui est un véritable microcosme et où on peut trouver tous les services souhaités.
Alors, justement, avec le VO cartoucherie, on renoue un peu avec ce qu'était à la grande époque du cinéma, le cinéma de quartier, finalement celui qui va fédérer tous les gens qui sont là et qui ont envie d'aller au cinéma à proximité.
Tout à fait, c'est absolument comme ça qu'on se définit. Alors nous, plus globalement sur les cinémas du réseau VO, le cinéma VO cartoucherie est le 21e dans toute notre carte des cinémas en France, alors essentiellement répartis sur le sud-ouest, sur un grand sud-ouest. Et notre ligne éditoriale, c'est là, elle se joue sur cette volonté d'être un lieu de proximité, un lieu où la convivialité est au rendez-vous, où l'aspect humain est primordial. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix dans ce cinéma de 4 salles de taille assez modeste et qui comporte 367 fauteuils. On a fait le choix de ne pas avoir une borne sur laquelle on pourrait commander ses tickets sans passer par une caisse. Vous aurez tous les jours, à toute heure de la journée, en tout cas d'ouverture au public, une personne à l'accueil qui sera là pour répondre aux questions, vous informer, vous conseiller, vous vendre billets, confiseries. Et c'est notre souhait de vouloir créer ce lien et d'avoir une vocation sociale aussi dans le quartier, d'une part avec ce nouveau cinéma, mais de façon générale avec nos autres cinémas.
Alors, où va se nicher votre passion du cinéma, Virginie, et plus largement le circuit VO? C'est que chacune des salles a une atmosphère liée à un cinéaste ou à un film. Alors, pour mémoire, la salle 1, c'est plutôt Lynchien, c'est Blue Velvet, votre salle 1. Dans l'ambiance, on est chez Lynch. Et dans la salle 2, par exemple, c'est plutôt français, Frenchy, avec Alain Chabat et Astérix. C'est une belle idée, ça, d'avoir donné une empreinte cinématographique forte aux salles où les spectateurs vont s'installer pour regarder d'autres films.
Tout à fait. Après, sans vous mentir, je travaillais au cinéma VO Colomier auparavant, et c'était une idée qui avait déjà germé. Là, on a un peu plus approfondi le concept, puisque sur le cinéma de Colomiers, il est composé de 5 salles. Chaque salle est attribuée à... On l'associe à un réalisateur. Là, on a plus travaillé la thématique d'un film par un réalisateur. Donc, on a travaillé ce qu'on appelle un photogramme. On a pris comme une photo d'un film et on a essayé de reporter l'univers coloré de cette photo et du film à travers... les fauteuils, à travers les teintures, à travers les moquettes, tous les éléments qui nous permettaient d'apporter de la couleur dans les salles de cinéma.
Alors, justement, donc là, on a parlé de Blue Velvet, Astérix, il y a aussi un maître du cinéma français, Playtime, pour Jacques Tati, et aussi le grand cinéaste maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, avec Le Voyage de Chihiro. C'est tout ça, c'est, vous l'avez dit, une belle idée. Et pourtant, vous restez un cinéma généraliste avec, bien sûr, des séances art et essai, mais vous n'êtes pas catalogué cinéma art et essai.
Oui, alors c'est un peu une volonté. Alors d'une part, l'offre art et essai est déjà très présente sur le secteur du centre toulousain. Il y avait une volonté de ne pas aller se confronter à ces cinémas qui sont déjà implantés depuis plusieurs années, voire des décennies, et qui ont fait un travail non négligeable et en tout cas remarquable. Il y avait le désir de trouver une programmation généraliste à l'identité des cinémas VO, mais avec malgré tout une proposition, si on peut l'atteindre, de 50% de séances art et essai. Ce choix-là, il est porté par le fait aussi de vouloir donner l'accès à la culture au cinéma à tous, et aussi de s'implanter dans un quartier où on a vu qu'il y avait une population très mixée, aussi une population étrangère. Donc on va aller se positionner sur la version originale dès qu'on le peut, et ça va être une majorité de nos séances. On est un peu un mix entre le cinéma réessai et le Patty Wilson. Voilà, c'est un petit peu un mélange de ces deux schémas de cinéma qu'on souhaite proposer ici, de la diversité, et aussi ne pas faire peur à certains pour qui parfois l'appellation art et essai peut rebuter. Oui, il y en a pour tous les goûts. On va aller se positionner un peu à l'image de nos cinémas VO dans cette ligne éditoriale, avec quand même un renfort sur l'art et essai, qui ne nous permettra pas d'atteindre le label, mais pour autant pourra quand même proposer ce type de séance.
Vous allez être juste au bord de l'art et essai, généraliste et populaire. Avec nous, il y a Guillaume Sidom qui veut vous poser une question.
Bonsoir Virginie. Justement, le cinéma pour tous, mais aussi à des tarifs très avantageux, puisque vous proposez le tarif le plus élevé à 9,90 et des formules d'abonnement.
Tout à fait. Ben, du coup, ça va exactement dans la lignée de l'accès au cinéma pour tous. Ça passe par la programmation d'une part, mais ça passe aussi par les tarifs. Il y avait une véritable volonté de pas être discriminant par le biais financier. Donc on propose, comme vous l'avez dit, le tarif le plus élevé à 9,90 €. Mais grand nombre de spectateurs ont déjà opté pour la carte d'abonnement, qui vous revient à 6,50 € la place. Et l'avantage de cette carte, évidemment, elle a une limite dans le temps, mais elle est quand même assez élevée, cette limite. Et surtout, elle est partageable.
Oui, deux adultes, deux enfants. Ouais.
Alors les enfants, vous les prenez à part, puisque jusqu'à leurs 14 ans, ils payent 5 €. Donc dans cette idée-là, une famille composée, on part sur un schéma très classique, de deux adultes, deux enfants, ils peuvent venir au cinéma pour 23 € seulement. Pardon.
Oui, c'est particulièrement avantageux et attractif, ouais, pour les familles. Vous frappez juste, Virginie Sanso, et vous allez donc commencer à trouver votre chemin pour attirer les spectateurs, et ça va bientôt être le cas pour le vendredi 31 octobre. On va pouvoir célébrer Halloween avec vous au cinéma VO Cartoucherie.
Exactement, on a créé un événement en 3 temps qui pourra du coup satisfaire les plus grands comme les plus petits. On proposera donc le matin, sur nos séances de 10 h, un programme de 3 courts-métrages qui s'appelle Mon Petit Halloween, destiné aux enfants dès 3 ans, avec une distribution de bonbons pour les enfants déguisés. Puis on aura à 14 h la famille Adams, plutôt préconisée pour les 7-8 ans, qui est quand même emblématique, qui va ressortir dans les salles en février. Et là, donc, on est sur le film de 92, l'emblématique de départ, avec également des bonbons pour les enfants déguisés. Et le soir, on proposera Midsommar, un film interdit aux moins de 12 ans qui avait eu un gros succès en 2019, mais qu'on sait que certains n'auront pas vu ou auront plaisir à revoir, avec des tarifs spécifiques pour ces événements, puisque c'est 6,50€ pour les plus de 14 ans et 5€ pour les moins de 14. Pour Midsommar, on aura une petite animation qui consistera à un quiz spécial horreur, qui sera donc réalisé par Thomas, un de mes collaborateurs, en direct dans la salle, et il y aura des lots à gagner, bien évidemment.
Alors maintenant, on sait où aller.
Faut se déguiser, Louis-Marie. Vous avez passé l'âge.
Au VO Cartoucherie, et puis d'ici le 31 octobre, on pourra aller voir les films que vous proposez. Parmi les nouveaux films qui sont à l'affiche de la semaine, il y a L'Homme qui rétrécit, dont vient de parler Laurent Martin. Il y a aussi le dernier volet de Kaamelott. En tout cas, on vous souhaite un bon vent, Virginie Sanso, et merci de nous avoir consacré un peu de temps. Et pour vous accompagner, on écoute justement un extrait de la bande originale du film de Yann Kounen, L'Homme qui rétrécit. Merci encore, Virginie Sanso.
Merci à vous.
Sur la musique d'Alexandre Desplat pour le film de Yann Kounen, L'Homme qui rétrécit, on retrouve le panier de l'ouvreuse et vous, Laurent Martin, pour les nouveaux films de la semaine.
Et oui, panier de l'ouvreuse, partie 2, avec la petite dernière, le nouveau film d'Afsia Herzi, avec Nadia Meniti. C'est l'histoire de Fatima, 17 ans, qui est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Elle est bonne élève, elle intègre une fac de philo à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Fatima se met alors à se questionner sur son identité, comment concilier sa foi avec ses désirs naissants. La petite dernière, qui marquait l'entrée dans la compétition cannoise, d'Afsia Herzi, réalisatrice, prolonge en montant de plusieurs crans ce qui a fait le sel de ses film précédent, Tu mérites un amour et Bonne mère, avec une mise en scène qui magnifie les visages, les regards et les corps. À noter que ce film est adapté du roman autobiographique de Fatima Das, un récit de construction personnelle d'une jeune femme musulmane qui aime les femmes. Et ce film, on le vit avec Fatima, donc à travers elle, avec ses hontes, ses doutes, ses emballements de cœur et ses peurs. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Kaamelott, deuxième volet, partie 1, d'Alexandre Astier, qu'on peut voir, ben justement, vous en parliez, OVO Cartoucherie. Ne zappez pas, Grégory Com va vous en parler dans quelques minutes. On peut voir aussi La disparition de Joseph Mengele, de Kirill Serebrennikov, au Grand Palais à Cahors. Louis-Marie, un film pour vous, ça vous allez le voir, c'est sûr. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper, l'American Cosmograph, un film sur le, je crois que c'était sur le sixième album de Springsteen qui s'appelle Nebraska, qui
Nebraska,
est peut-être son meilleur album.
En tout cas, celui qui, pour lequel il a eu du mal parce qu'il traversait une époque difficile.
Une dépression.
Dépressif, oui. Quand je dis un peu, il était particulièrement dépressif. Oui.
Il avait enregistré ça apparemment dans sa chambre au New Jersey sur une cassette à quatre pistes. En fait,
c'était
une belle histoire.
Oui, ouais. Qui mérite d'être un film. Voilà un biopic qui sort un peu des sentiers battus des autres biopics pour se consacrer juste à un moment de création.
Mais ça, c'est très bien, je trouve. Au lieu de faire toute la vie d'un artiste, vraiment se concentrer sur un moment, c'est une bonne idée. Voilà, si vous êtes fan, vous irez. Puis même si vous n'êtes pas fan, vous pourrez découvrir Springsteen. C'est toujours un bonheur de l'écouter. On peut voir aussi The Neon People, un documentaire de Jean-Baptiste Toré. Jean-Baptiste Storé, qui est journaliste aux Éléments, qui me semble à une époque, il est critique de cinéma, on l'a dit. L'American Cosmograph, c'est un documentaire sur le Strip de Las Vegas. Le Strip, vous savez, ce sont ces longues avenues aux États-Unis, et donc il y a toute une faune qui vit là. On peut voir aussi un film d'horreur, Chainsaw Man, le film L'Arc de Résée, c'est un film animé d'épouvante de Tatsuya Yoshihira. On peut voir aussi Le Secret des Mésanges, un film d'animation décisant d'Antoine Lancio, qu'on peut voir au VO à Muret ou à l'ABC à Toulouse. On peut voir aussi Arco, pas confondre avec Sarko, un film d'animation dès 8 ans, d'Hugo Bienvenu, ça tombe bien. On peut voir ça au CGR Le Paris-Montauban ou au Régent à Saint-Gaudens. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on.
Le boss. Bruce Springsteen qui interprète Atlantic City, un des morceaux phares justement de l'album Nebraska. Et tout de suite, on retrouve notre homme de loi des séries qui va nous parler de Kaamelott. Et ça va saigner.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, bon, ce soir, on va être clair, je vais être procureur. Je vais être procureur et ça va saigner, mais dur, parce que j'en ai marre. J'en ai ma claque du mauvais cinéma français, j'en ai ma claque du népotisme dans le cinéma français, et j'en ai ma claque de Kaamelott et d'Alexandre Astier. Alors oui, ça va vous étonner, Louis-Marie, j'attaque fort, mais j'ai vu le film Kaamelott, volet 2, partie 1. Et on va être clair, c'est loupé. C'est mauvais, c'est à la limite de l'inregardable. Oui, je suis dur ce soir, mais ça le mérite. Vous le savez, je suis un très gros fan de Kaamelott. J'ai adoré la série. J'ai regardé 20 fois les DVD, puis je me suis acheté les Blu-ray, puis les Blu-ray 4K. J'ai acheté les BD. Gros fan. J'avais été non pas déçu par le film, je l'avais trouvé intéressant, le 1, mais pas emballé. Et j'attendais beaucoup de ce film, le 2, pour enfin avancer sur l'histoire. Et malheureusement, il prend tous les défauts du premier film et les accentue, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je le pense clairement, il ne sait plus vraiment où il veut aller, Alexandre Astier. Il ne sait plus ce qu'il veut nous raconter. Dans le 1, c'était un peu un teaser. Le roi est parti, on le récupère, il reprend la table ronde. On se dit, tiens, dans le 2, ça va enfin démarrer. Ça ne démarre jamais. Le film ne démarre jamais, c'est clair. À un moment, je regardais, ça faisait déjà une heure de film, je regarde jamais ma montre pendant les films. Là, je m'ennuyais tellement que j'ai regardé. Et je me dis, attends, ça fait une heure, le film n'a pas démarré, il ne s'est rien passé. C'est des gens autour d'une table qui s'engueulent. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu ça, Kaamelott. Alors, je veux bien, à la télé, mais pas au cinéma. Parce qu'Alexandre Astier nous a dit qu'il avait une vision qui ne pouvait passer qu'au cinéma. Si c'est pour nous faire la même chose qu'il faisait à la télé, en moins bien, c'est pas la peine d'aller au ciné, clairement. Donc ça, c'est le premier point. La réalisation, elle est très moyenne. Je vois pas de palier passer. C'est pas mauvais, c'est juste très moyen. Ça aurait pu être fait en téléfilm. Le deuxième point qui m'embête, c'est le scénario. Absence totale de scénario. C'est, on va envoyer les chevaliers faire des quêtes à droite et à gauche. Alors évidemment, on va me dire que c'est que la partie 1, on n'a pas vu la partie 2. Eh bien justement, Alexandre Astier qui dit, ah mais quand j'ai fait le film, j'avais tellement d'idées extraordinaires, j'avais tourné 5 heures de rush, j'ai pas réussi à couper, donc je vous donne les deux parties, je suis trop généreux. Non, justement, à un moment, il faut que tu coupes, parce qu'il y a des trucs qui servent à rien. Donc nous faire revenir n'importe quel personnage, parce que c'est tes potos, parce qu'il faut les mettre en avant, mais que t'as rien à raconter avec eux, ça marche pas. Faire venir Clavier clavier. J'aime beaucoup clavier. Il sert à rien. C'est une scène qui sert à rien à part de, bah, je suis pote avec clavier, je fais revenir Alain Chabat. J'adore Alain Chabat. Le personnage ne sert à rien. Les faire rester pendant des heures autour de la table ronde à s'engueuler, on l'a vu 20 fois, c'est trop long. Quand c'est une scénette d'une minute, ça va. Quand c'est 20 minutes, c'est nul. Ensuite, on va être clair. Alexandre Astier fait tourner toute sa famille. Ok, ça a toujours été la marque de fabrique. Mais il savait jouer. Là, il fait tourner certaines de ses filles, peut-être d'autres potes à côté. Les mecs ne savent pas jouer. C'est même pas qu'ils jouent mal, s'ils ne savent pas jouer. En fait, j'ai l'impression d'être face à une mauvaise soirée de jeu de rôle où des gens surjouent pour tenter d'exister. C'est mauvais, c'est nul, et ça casse l'ambiance, ça casse l'immersion. Donc ça aussi, c'est pas possible. Donc je veux bien qu'Alexandre Astier ait tout un budget autour de lui pour faire vivre toute sa famille. C'est cool. Mais en fait, moi, je suis pas là pour voir des gens mal jouer entre potes, entre famille. Je me sens autant arnaqué que quand je suis allé voir le dernier Astérix où c'était Guillaume Canet et ses potes. Donc le népotisme au cinéma français, je n'en peux plus. Et derrière, effectivement, quand on arrive à la fin du film avec Caradoc qui se réveille un peu, parce que vous le savez, Perceval n'est pas dans le film, donc on a switché, on a mis Caradoc sur quasiment le même rôle, parce que l'acteur qui faisait Perceval, ça a été révélé il y a peu, n'était pas d'accord avec l'orientation scénaristique de son personnage, on le comprend. Après, je sais pas où est-ce qu'il a vu une orientation scénaristique, il n'y a pas de scénario, mais ça c'est un autre problème. Donc effectivement, quand Caradoc commence à se bouger, ben, c'est à 20 minutes de la fin. Le seul truc que je pourrais sauver, c'est quelques scènes de Lancelot qui sont intéressantes, mais derrière, le scénario n'a pas avancé d'un iota à la fin du film. Donc, c'est loupé en termes réalisation, c'est loupé en termes acting, c'est loupé en termes scénario, la musique, on nous vend Alexandre Astier, grand mélomane, c'est loupé aussi, on rajoute un petit peu de népotisme à la française, et on a tous les ingrédients d'un ratage complet. Alors, pourquoi je suis autant énervé? Parce que Alexandre Astier, il se présente comme l'homme qui va tout révolutionner, comme l'homme qui a une vision, comme la personne la plus habile et la plus douée du cinéma français. Mais Alexandre, avec Kaamelott, épisode 2, partie 1. Tu n'es pas la révolution du cinéma français, tu es l'incarnation de ses pires défauts. Je vous remercie.
Ouch ! Voilà un uppercut qui frappe fort et qui frappe dur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, à propos de Kaamelott, la vie de notre homme de loi des séries est tranchée. C'est le moins qu'on puisse dire.
Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils! Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là!
Allez, dégagez, dégagez, dégagez!
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines sur toute la colline.
L'odeur du napalm le matin, ouf. Une scène forte et emblématique. Vous avez reconnu évidemment le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, dont on peut voir alors le final cut, hein, parce qu'il y a eu
plusieurs versions, oui.
Redux, la première version, oui. Celle qui a été récompensée à Cannes en 79
par Palme d'Or.
Palme d'Or.
Ex aequo avec Le tambour, non ?
Le tambour, oui, de Volker Schlondorff. Tout à fait, mon cher Laurent. Et voilà, donc Palme d'Or au Festival de Cannes, nommé à 8 Oscars, il n'en aura que 2, et pas forcément les plus valorisants, puisque c'est le...
L'Oscar de la meilleure odeur, apparemment.
Meilleure photographie et meilleur son, alors que Robert Duvall était nommé pour meilleur acteur dans un second rôle, c'est le lieutenant-colonel Kilgore, dont on vient d'entendre la voix française, celui qui aime...
Et c'est la cavalerie, mais la cavalerie aéroportée.
On se souvient de sa tenue et de son chapeau qui était celui de la cavalerie, lui.
Exactement.
Par
enfin, meilleur son aidé par The Doors.
Comment ?
Je disais meilleur son aidé par The End.
Non, meilleur son, attention, The Doors, c'est la musique, le son pour l'ambiance.
Oui,
vous avez
son,
entendu l'hélicoptère et de toute façon, on va y venir aux Doors, on les entend à la fin et seulement à la fin. Et c'est un des rares réalisateurs, Francis Coppola, à avoir réussi à acheter les droits d'un titre des Doors pour pouvoir le passer dans son film. C'est extrêmement rare de trouver un morceau des Doors. Jim Morrison ne voulait pas et les autres, même après son décès, ont continué à ne pas vouloir
respecter sa volonté.
Voilà, en tout cas, Je vous le disais, pour Apocalypse Now, Final Cut de Francis Coppola, vous pourrez le voir lundi 27 octobre au Pâté la Beige en VF, et ce sera à 20h si vous voulez le voir en VO le même jour, c'est au Pâté Wilson, mais à 20h30. Un coup d'œil rapide sur d'autres belles choses qu'on peut découvrir, notamment au cinéma Utopia Bordeaux Rouge, une rétrospective Raymond Depardon. Il y a quelques très beaux films qu'il a signés, Muriel Leferle, un de nos meilleurs documentaristes, hein. Urgence, Faits divers, San Clemente, Délit flagrant, extraordinaire, caméra placée dans le bureau d'un juge, d'un magistrat, et on voit les comparutions immédiates. C'est assez extraordinaire. 12 jours, 10e chambre, instant d'audience. Voilà. Depardon est là, et Depardon est au cinéma Utopia Bordeaux Rouge. Précipitez-vous sur leur site pour trouver à quel moment vous pourrez voir ces films. Et puis, du côté de la Cinémathèque, il ne faudra pas manquer demain.
Ah oui,
le goût des autres. Pourquoi? Parce que demain, le film est projeté à 19h30, mais à l'issue de la projection, Ania Jaoui sera là, et elle parlera avec le public du goût des autres, et de ses films, et de la galaxie Jaoui, et de ses choix.
Et puis, vous pouvez gagner vos places cinéma@radioprésence.com.
Et oui. Et puis, côté remake, vous en avez parlé, Blow Up. C'est là, non pas au Pâté Wilson, mais il faut aller au musée des abattoirs. Côté remake, on pourra découvrir Dr. Jekyll et Sister Hyde. Amusant, quand le Dr. Jekyll se transforme non pas en homme affreux, mais en femme.
Ah, c'est Sister Hyde.
Oui. Et puis, autre remake.
Samedi 25 à 16h.
Et autre remake remarquable aussi, Drive.
Ah, oui.
Le film de Nicolas
Rigby. La bande son.
Knife. J'arrive pas à le dire, c'est
Nicolas Winding
Refn. Voilà. On y est. C'est College, extrait de la bande du film Drive de Nicolas Winding Refn, et le conducteur, c'est Ryan Gosling, extraordinaire. Allez, Laurent, qu'est-ce qu'il faut voir à la télé?
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Une affaire privée de Guillaume Nicloux, avec Thierry Lhermitte et Marion Cotillard. Rachel a disparu sans laisser de traces, et son absence hante sa mère qui, désespérée, se tourne vers François Manéry, un détective privé usé par les années et les affaires sans issue. Un polar aussi troublant que stylisé dans lequel Thierry Lhermitte, à contre-emploi, livre une performance remarquable. Vendredi, France 5, 21h, ce sera Le Crabe Tambour de Pierre Schoendoerffer, film de 77 avec un casting 5 étoiles. Jacques Perrin, Claude Rich, Jean Rochefort, Jacques Dufilho. L'histoire de ce commandant et de ce médecin-major qui partagent leurs souvenirs d'un homme qui hante encore leurs esprits. Le lieutenant Wilsdorf, une figure légendaire aussi charismatique qu'insaisissable. Un film bouleversant sur une génération de soldats, servi par une distribution exceptionnelle. Samedi, France 4, 21h, ce sera Suzume, le film d'animation de Makoto Shinkai. L'histoire de Suzume, une lycéenne qui croise un jeune homme. Celui-ci l'aborde et affirme chercher une porte mystérieuse dans une des ruines situées dans la région. Une œuvre singulière et des personnages attachants à découvrir. Dimanche, sur la chaîne parlementaire, c'est la chaîne 8, quand vous zappez, à 20h40, on pourra revoir La Haine de Mathieu Kassovitz, un film de 95 avec Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui. 10h38 du matin, Les Muguets, une cité de la banlieue parisienne qui se réveille en état de siège. Toute la nuit, les jeunes du quartier se sont battus contre les forces de l'ordre. Le film suivra le destin de trois d'entre eux. Un film percutant, intense et d'une étonnante maîtrise dans lequel les trois jeunes acteurs principaux sont formidables avec Vincent Cassel qui a fait une belle carrière, Robert Cooney, on l'a un peu perdu vue, et Saïd Amaoui qui a fait une belle carrière aux États-Unis, à Hollywood. Et puis lundi, Arte, 21h, une soirée policière, messieurs, avec 20h55, Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, un film de Jean Delannoy de 1959 avec Jean Gabin. Voilà. Et à 22h35, vous pourrez enchaîner, comme disait au canard, avec un film que vous aimez beaucoup, je crois, Guillaume, c'est Frenzy. Alfred Hitchcock, bien sûr, l'histoire de ce tueur à Londres dans les années 70.
C'est son dernier film.
Et c'est le dernier film d'Hitchcock, exactement. Le conseil musical, vous l'attendez, ce sera un CD. Quand on parle musique de film, on pense à Ennio Morricone, bien sûr.
Bah oui,
c'est le premier qui nous vient à l'esprit. Avec The Platinum Collection, retrouver les plus belles musiques de film du maestro, rassemblées à une seule compile de 60 titres environ, pour en faire peut-être la BO de votre vie, pourquoi pas. Voilà, un très beau coffret CD que vous retrouvez pour 20€ chez EMI. Tenez, Guillaume, je vous le prête, hein, vous venez me le rendre, et je crois que vous avez un conseil de lecture.
Oui, je vous emprunte votre conseil de lecture pour le film, justement, on en parlait, Arco, un film d'Hugo Bienvenu. C'est donc un livre d'Hugo Bienvenu, justement, et Romain Brett, chez De Noël, et je vous l'offre pour une fois.
Écoutez, c'est bienvenu. Voilà pour les cinémas et télévisions.
Vous êtes ébouriffants tous les deux.
Je suis désolé de vous déranger. Excusez-moi, on peut appeler hors de France avec cet appareil parce que j'essaie d'avoir l'Angleterre depuis tout à l'heure, ça marche pas.
Histoire de vous mettre dans l'ambiance, hein. Alors, cette réplique, elle est pas dans le goût des autres, elle est dans le film de René. On connaît la chanson, voilà, et il est à tout prix, il veut téléphoner, hein. Il conduit, vous savez, il est Jean-Pierre Bacri incarne chauffeur de dames qui font leurs courses dans des magasins de luxe, et qui prête à confusion pour sa femme qui croit qu'il la trompe. Alors que non, son boulot c'est de conduire ces dames qui ont plein d'argent et qui vont faire leurs courses dans des magasins chics, évidemment. Et là, cette petite musique, si on peut dire ça comme ça, Danse Libre, c'est son nom, est signée Désir plutôt, parce que c'est français, et on peut l'entendre dans La Petite Dernière d'Avzia Herzi. Allez, une petite info, c'est les vacances. Vous irez à l'ABC Toulouse jeudi 23 octobre, c'est-à-dire demain, à 10h30. Il y aura une projection pour les tout petits, pour les petits-petits, les petits gourmands, pour vous, Guillaume Sidom, et votre tout petit voisin.
Et pour moi aussi.
Et pour vous aussi.
Vous allez rétrécir. Voilà.
33 minutes de film. Et puis, il y aura la projection, puis il y aura des jeux en salle après. Après.
Jeux en salle.
Oui, des jeux en salle. À travers, après, c'est cette histoire savoureuse qui sont pleines de couleurs et de tendresse. Vous avez noté, hein, les petits gourmands. C'est vous, Guillaume. Demain, jeudi 23 octobre, 10h30. Et puis, il y a Utopia Bord de Rouge dans la peau de Pascal Tessot. C'est dans le cadre du festival Origine Contrôlée du 11 au 25 octobre. Il n'y a plus que les lumières, là où la facette, les fumigènes, en fait, là où la facette, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant.
C'est encore en tout cas,
non, ça n'existe plus.
Je préfère Springsteen quand même.
Oui, moi aussi. Et alors justement, pour nous amener jusqu'à la fin, justement, il fallait un morceau pour la fin.
Ah oui, ça aussi. This is the end.
beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again.
À la fin, Willard, ce militaire qu'on avait envoyé pour tuer le capitaine, non, le
colonel Kurtz,
le colonel Kurtz,
par Marlon Brando, c'est Martin Sheen qui joue le capitaine,
et il va finir par y arriver à la toute fin, et une fois que c'est
sacré
fait,
film,
ben c'est la fin,
ouais.
C'est la fin. Notez que dans la version que vous pouvez voir, Final Cut, il y a toute une série de scènes qui n'étaient pas dans le film qui a obtenu la Palme et qui est sorti en 79. Oui. En particulier, toutes les scènes qui se passent dans une propriété...
des Français qui
voilà,
sont là.
Voilà, exactement. Ouais. Des Français qui sont là et propriétaires d'une plantation.
Ouais.
Et toute cette partie avait été coupée au montage. Et quand Aurore Clément... L'actrice française qui jouait dans le film a vu le résultat final avant qu'il ne soit présenté à Cannes. Elle en pleurait puisqu'il n'était pas dans le film.
Pas dans le film, hein.
Mais maintenant, ils y sont.
Ça a failli être la fin pour Coppola parce que le film a coûté bouillon fou.
Il avait hypothéqué ses biens. Allez, messieurs, rapidement, pour pas finir dans les choux, quels sont vos coups de cœur?
C'est la fin avec L'homme qui rétrécit, Springsteen bien sûr, et The Neon People, le documentaire.
La petite dernière, Arco évidemment, le film sur Springsteen, et puis La disparition de Joseph Mengele, et puis le remake aux abattoirs et La galaxie Jaoui qui continue au pâté Wilson.
La petite dernière, Arco, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, et puis Le goût des autres demain avec Agnès Jaoui à 19h30 au pâté Wilson. Merci messieurs.
Merci pour ces moments.
Merci, à mercredi.
À mercredi. On vous laisse avec les Doors. À 20h, Nathalie Cardon et des clés pour vivre.
Présence.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com. Écoutez Présence, c'est votre radio.